Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce 8e et dernier café scientifique de l'Université de Neuchâtel, ayant pour thème « Sanctions pénales, est-ce bien la peine ?». Je vous propose, comme ça en est la tradition, de passer la parole aux différents intervenants pour qu'ils se présentent et qu'ils donnent aussi un peu leur avis sur le système actuel des sanctions pénales, quelles sont leurs relations avec les sanctions pénales, comment ils les ressentent. Donc tout de suite, Monsieur André Kuhn.
Merci beaucoup, bonsoir mesdames et messieurs. Mon nom est donc André Kuhn, j'enseigne la criminologie et le droit pénal à l'Université de Neuchâtel. Et je vais défendre ce soir une position un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la position des abolitionnistes, c'est-à-dire une position qui part de l'idée qu'une société pourrait tout à fait vivre ou subsister ou survivre sans l'existence d'un droit pénal et sans l'existence de sanctions pénales pour tenter de la réguler. En fait, il pourrait exister une société autorégulée sans l'intervention de l'État il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de l'avancer. C'est toute une tendance de criminologie qui s'appelle la criminologie radicale ou abolitionniste.
Très bien, merci. Maintenant, Monsieur Pierre Roubert, quel est votre avis sur la question ?
En tant que procureur général, je n'ai en fait pas à avoir d'avis sur le bien fondé des sanctions. Je dois appliquer la loi, mais en tant que citoyen, je peux bien sûr avoir mon modeste avis. Je pense que la sanction est une réponse imparfaite à un comportement imparfait d'un membre de la société, de sorte qu'évidemment il n'y a rien d'enthousiasmant dans l'application des sanctions, mais je pense qu'il y a, à considérer l'histoire, quelque chose d'assez inéluctable. Et si on voulait s'en convaincre, pour prendre un exemple extrême, annonçons que la première semaine du mois de décembre est une semaine sans sanction. On dit semaine du cambrioleur, pas de sanction pour les cambrioleurs. Et je me demande si pendant cette semaine-là, le préopinant ne resterait pas sagement chez lui, quoi qu'il arrive, à attendre pour faire le guet. Donc cette boutade pour dire que je pense quand même que l'existence d'un droit pénal, d'une réponse de la société à des comportements qu'elle désapprouve, reste innée dans l'être humain, à un comportement globalement restrictif des débordements, même si évidemment il y a tellement de comportements différents et tellement de réponses différentes qu'on ne peut pas avoir un jugement tranché. Par exemple, on ne peut pas estimer devoir donner la même réponse à toute criminalité, que ce soit les bandes organisées de cambrioleurs qui viennent de pays assez éloignés, qui font leurs emplettes chez nous pour repartir, ou une poignée un petit groupe de jeunes gens de chez nous qui, pour se désennuyer le soir, vont faire quelques visites de maison plus par sens de l'aventure, ou un directeur d'entreprise qui, pour s'épargner quelques frais, décide de ne pas respecter des dispositions de protection des eaux, ou je ne sais quoi d'autre, où on voit bien que tous ces comportements en eux-mêmes contraires à la loi appellent des réponses différentes dans un but différent, parce que le moteur lui-même est tout à fait autre.
Merci. Maintenant, Monsieur Olivier Gagnac, qui est vraiment dans l'action face aux criminels. Quelle est votre position sur le sujet ?
Non, moi, je suis plutôt dans les bureaux. Actuellement, je ne suis pas en train de courir dans la rue. Donc, bonsoir, Olivier Gagnac. Donc, je suis l'ex-chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, prêté par Neuchâtel au canton du Jura pour reprendre le commandement de cette police, mais surtout avec un projet de fusion des deux corps, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Mais quand même, la police, c'est elle qui interpelle effectivement les contrevenants, tous ceux qui enfreignent la loi, c'est elle qui met les stratégies sur pied pour les déférer à la justice. Et normalement, elle n'a pas à s'exprimer sur les sanctions, parce qu'elle devrait même s'en désintéresser. On encourage même les policiers à ne pas regarder ce que deviennent leurs affaires, parce que vraisemblablement, là derrière, il y a une source de frustration entre l'effort qui a été produit et puis la nature de la sanction. Pas toujours, mais bien souvent. Alors André, tu m'excuses, mais tu seras un peu seul ce soir, parce que je suis plutôt de l'avis du procureur, tout en étant pour les justes équilibres. Il nous faut des règles pour pouvoir vivre ensemble, sinon eh ben, il y aura des faibles qui vont le payer par rapport aux plus forts qui vont les écraser. Donc il faut qu'on instaure le respect, évidemment, et puis la vie communautaire. Et sans règles, j'ai du mal à imaginer comment on peut fonctionner. Et derrière la transgression de la règle, s'il n'y a pas de sanction, ben, évidemment, comment apprendre et respecter la règle ? Et le juste équilibre là derrière, c'est de n'être ni trop sévère ni trop laxiste par rapport à la quotité de la peine, hein, par rapport à la sanction, tout en gardant un profond respect pour les attentes de la population par rapport aux différentes sanctions. Et dans la population, j'y mets volontiers la victime qui peut nourrir un certain nombre d'attentes. Alors, on sort actuellement un nouveau débat qui vient contrecarrer celui des sanctions les plus faibles que le code pénal ait connu par rapport aux courtes peines, les délits, on va dire, de petite et moyenne gravité, et auxquels on a infligé les jours amendes avec sursis, je ne sais pas si vous êtes au courant, puis actuellement, on est en train de lancer un débat pour revenir en arrière et réinstaurer les courtes peines privatives de liberté. Et ce débat ici est le bienvenu parce qu'il permettra vraisemblablement de discuter de ce retour en arrière par rapport à l'expérience qui a été faite dans le cadre de cette nouveauté pour laquelle tu n'étais pas étranger, hein, André.
Oh non, ça date d'avant moi.
Ça date d'avant toi.
Oui, merci. Alors, je me permets d'en revenir à M. Kuhn, qui a presque été attaqué de front, notamment sur le fait qu'en effet, s'il n'y a pas de sanctions pénales, est-ce que les gens vont vraiment respecter la loi ? On l'a vu, par exemple, avec les ceintures de sécurité, quand il y avait la loi qui disait qu'on n'avait pas le droit, on était obligé de les mettre, mais sans sanctions, il n'y a pas eu une nette augmentation du respect de cette loi.
Ok, je vais peut-être reprendre en amont. Il existe, mesdames et messieurs, sur la planète aujourd'hui, deux manières de rendre la justice pénale. Il existe une première manière qui est celle qui veut qu'à chaque fois que deux personnes entrent en conflit en raison d'une infraction à caractère pénal qui a été commise, c'est-à-dire quand les intérêts des uns et des autres se rapprochent un petit peu trop, voire se superposent, que fait la société ? Elle envoie Dame Justice avec son glaive qui va intervenir en partageant la chose en deux et en essayant de trouver un équilibre entre les positions des deux protagonistes. Ça, c'est la justice que nous connaissons ici, aujourd'hui. Il existe une autre forme de justice dans le monde qui est une justice qui part de l'idée qu'il existe dans une société un tissu social. Et une infraction pénale est une atteinte, une déchirure de ce tissu social. En d'autres termes, on ne va pas faire intervenir une dame justice avec un glaive pour achever le tissu social. Au contraire, on va faire intervenir une dame justice, dame ou monsieur, peu importe, hein, justice avec du fil et une aiguille qui va essayer de recoudre le tissu social qui a été déchiré par l'infraction pénale. En d'autres termes, être abolitionniste, ça ne veut pas dire être contre toute réaction sociale ou contre toute règle. C'est tout simplement dire que l'on voudrait une autre manière de résoudre le problème qui est existant. Et cette autre manière de résoudre le problème qui est existant passe par autre chose que la sanction pénale. La sanction pénale ne sert pas à grand-chose. En fait, elle va peut-être, éventuellement, faire peur aux gens. Mais est-ce que c'est vraiment sympathique de vivre dans une société de la peur ? On serait tous victimes de la peur du gendarme. On serait dissuadés par la sanction pénale. Ce n'est pas une société très sympathique. Je préférerais voir une société dans laquelle, lorsqu'une infraction pénale est commise, on essaye de recoudre le tissu social déchiré en s'adressant aux protagonistes, en essayant de voir aux protagonistes et à leur société respective ou à leur groupe social respectif, leur famille, pour essayer de voir comment on pourrait trouver une solution dite amiable au conflit qui aura été créé par l'infraction. En d'autres termes, on ne réagirait pas à l'infraction pénale par une sanction, mais on réagirait par l'intermédiaire d'une sorte de réconciliation entre des positions qui ont été perturbées. Et lorsqu'on a essayé d'introduire cette idée dans le code de procédure pénale en Suisse, ça a été balayé du revers de la main par le Parlement. On nous a dit le droit pénal appartient à l'État, on ne va pas faire intervenir des travailleurs sociaux qui vont essayer de recoudre le filet pénal, hein, je sais pas, pas le filet pénal, recoudre le filet social, merci, ouais, plutôt, merci. Et on veut garder cette idée que procureur, juge, décide pour les citoyens qui ont fait des bêtises. Cette idée qui s'appelait la médiation pénale, en fait, qui aurait été de sortir, en fait, le conflit de la juridiction pénale pour l'envoyer en médiation, c'est-à-dire chez un médiateur, un travailleur social, qui aurait tenté de trouver une solution autre qu'une solution pénale au sens sanction, eh bien, ce genre de système existe dans d'autres parties du monde. Je pense ici à l'Océanie, je pense ici au nord du Canada, je pense ici à l'Amérique du Sud, à l'Afrique, qui sont des continents entiers ou des endroits où l'on connaît cette manière de résoudre les conflits. Il y a même, dans des sociétés tout à fait semblables aux nôtres, Nouvelle-Zélande par exemple, il y a deux codes de procédure pénale, deux codes de procédure pénale, en enlevant le mot pénal au premier, un code de procédure qui est un code de procédure qui cherche à résoudre le problème par la médiation ou par un mode amiable de résolution de conflits, et on appliquera le mode répressif seulement lorsque le mode amiable n'aura pas fonctionné. En d'autres termes, le mode répressif peut exister, mais seulement en deuxième idée, après avoir d'abord tenté le mode amiable de résolution de conflits. Ça, c'est en fait l'idée à la base de cette abolition, hein, des sanctions pénales. Ensuite, j'aimerais répondre à la question qui m'a été posée. En matière de circulation routière, on a vu effectivement en Suisse, il y a eu une introduction de l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Ensuite, on a considéré que cette obligation n'était pas conforme, enfin, il n'y avait pas de base légale, donc elle est tombée. Puis ensuite, on a reconstruit une base légale, donc on a réintroduit l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu effectivement le nombre de porteurs de ceinture de sécurité jouer au yo-yo, hein, quand il y avait une obligation avec une sanction, il la portait. Quand il n'y avait pas d'obligation ou pas de sanction, il ne la portait pas. En d'autres termes, on peut partir de l'idée que la sanction sert à quelque chose. Certes, mais on est là dans un domaine particulier du droit, qui est la circulation routière d'abord, et surtout, on est tout en bas de l'échelle des sanctions pénales. On est tout en bas de l'échelle des sanctions pénales. Si on va maintenant tout en haut de l'échelle des sanctions pénales, et on se pose la question de savoir quel est, par exemple, l'effet sur la population de la peine de mort. Et il y a des études américaines qui montrent très clairement aujourd'hui, hein, donc des études des années 90, qui montrent très clairement aujourd'hui que les États qui ont réintroduit la peine de mort dans les années 80 ont connu dans les années 90 une augmentation de la criminalité violente. En d'autres termes, les sanctions extrêmes ne dissuadent pas la commission de crimes, elles encouragent la commission d'infractions. Ça s'appelle la brutalisation. La brutalisation, c'est quoi ? C'est lorsque l'État montre l'exemple, il désinhibe les citoyens, et les citoyens font la même chose. Pourquoi, mesdames et messieurs, enfermons-nous nos enfants dans leur chambre lorsqu'ils commettent des bêtises ? Eh bien, c'est peut-être parce que nous sommes méchamment brutalisés par le système pénal qui enferme les criminels qui font des bêtises, alors qu'enfermer son enfant lorsqu'il fait une bêtise, ça s'appelle une séquestration, c'est punissable de 5 ans de privation de liberté selon notre code pénal.
Merci pour vos précisions et commentaires. Vous avez eu différentes approches des sanctions pénales. Maintenant, j'ai envie de vous donner la parole. Si vous avez des questions, des remarques ? Pas encore. Alors on va continuer refaire un tour sur les différents éléments qu'a donné Monsieur Kuhn. Monsieur Aubert.
Oui, alors on observe déjà qu'il ne s'agit plus d'un abolitionnisme, mais d'une tendance à partager deux systèmes, en deux systèmes, un système de médiation sans renoncer fondamentalement à la peine, ce qui permet déjà un net rapprochement de nos positions, parce que le système que décrit M. Kuhn, nous le connaissons dans une certaine mesure par la conciliation des affaires qui ne se poursuivent que sur plainte ou pour la justice des mineurs. Alors je l'ai un peu pratiqué, la justice des mineurs, ces dernières années, et autant que possible, nous essayons de mettre en présence l'auteur et la victime. C'est très enrichissant pour l'auteur qui se rend compte que la victime est une personne, que ce n'est pas simplement un concept, et que par conséquent, quand il va chez cette personne pour y commettre un vol, il lèse un individu dont il peut, sur lequel il peut ensuite mesurer les effets, et ça c'est une chose importante. Et puis ensuite, il peut apporter une contre-prestation pour réparer son dommage. Alors c'est pas si facile que ça, parce que ça demande la participation de l'auteur, qui n'est pas toujours extraordinairement performant dans le paiement d'un dommage, dans l'exécution d'un travail réparateur, ou même dans la formulation de simples excuses qui ne soient pas qu'un borborygme assez pénible à entendre. Donc il est indispensable de dire c'est ça ou quelque chose d'un peu plus fâcheux pour vous. Donc c'est un moteur à une réparation, mais qui en lui-même est souhaitable. Alors ça va bien quand ce sont principalement deux personnes qui sont en contact, de camarades d'école, un maître, son élève, deux parents, des membres d'une même famille. C'est un système qu'on peut prôner. Je ne sais pas si la Migros ou la Coop créerait des postes entier de représentants du commerce pour des médiations pour les milliers de vols à l'étalage qu'ils subissent chaque année. Ça n'est plus tellement possible d'envisager dans ces infractions de masse un règlement aussi ciselé du litige. Simplement, les moyens des uns et des autres manquent. Et puis, le règlement du litige entre une personne qui a commis 50 cambriolages et les 50 cambriolés pourrait aussi se révéler relativement difficile. Donc, sur le principe, je suis tout à fait favorable à l'idée que, dans un grand nombre de cas, on n'est plus performant à recoudre qu'à continuer à déchirer. Mais ça n'est possible d'abord que quand la position de l'auteur est affaiblie par la crainte qu'il a d'une sanction, et que par conséquent il doit se mettre à proposer une réparation, ce qu'il ne ferait peut-être pas spontanément, et ça n'est possible que dans un type déterminé de litige, mais pas dans une criminalité de masse qui échapperait aussi bien par l'intention des victimes que des auteurs à ce bode de règlement.
Merci, Monsieur Gagnard. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Mais volontiers. Donc, moi, je suis venu pour remettre un peu de pragmatisme. Donc, par rapport à l'abolitionnisme, il y a des limites. Alors, les limites n'ont pas été clairement exprimées. Évidemment, quand quelqu'un tue une autre personne, je ne vois pas quelle médiation on peut entreprendre, médiation réparatrice. La personne est morte et là, on doit juste imaginer que le crime soit sanctionné. Alors, heureusement, on a aboli la peine de mort, on ne parle pas de ça, mais on ne peut pas laisser ce crime-là impuni et on est obligé d'imaginer un seuil par rapport à ce qu'il a fait. Même pour le cas où la personne tue, par exemple, sa conjointe, hein, un des derniers meurtres à Neuchâtel, le risque de récidive est pratiquement nul, puisqu'il a supprimé la raison pour laquelle il est passé à l'acte. Donc, voilà. Et pourtant, on est obligé de le condamner, celui-là, et on est obligé de le condamner avec une certaine sévérité par rapport à ce que vous attendez dans la salle et par rapport à ce que nous avons défini comme étant une échelle adéquate. Pour l'instant, on peut la remettre en cause. On peut passer de 20 ans maximum à 10 ans maximum. Moi, je m'en fiche, mais je suis pas sûr que ça coïncidera à toutes les attentes. Donc, il y a cette notion de seuil. Le procureur Pierre Aubert parlait des cambriolages, 50 cambriolés, victimes cambriolées contre un cambrioleur. La médiation, me semble un petit peu difficile. Alors il faudrait pousser l'abolitionnisme jusqu'à laisser l'auteur de ces cambriolages dans les mains de ces 50 victimes. On verrait ce qu'il resterait si l'État ne prenait pas en charge finalement la sanction. Moi j'ai peur que l'on retourne assez rapidement vers le holisme ou l'appropriation de la justice par les gens. Et puis là, ça risque de mal se passer parce qu'on sait que ça se passait mal avant que l'État en prenne, le prenne pour lui. Et puis, alors, dans la sévérité, il faut ramener les choses. La sévérité n'est pas une dissuasion pour tous les types de délits. C'est clair que dans les délits de pulsion entre les individus qui vont se casser la figure, dans le cadre du viol, qui est un délit de pulsion, les actes à caractère sexuel, la sévérité ne joue vraisemblablement aucun rôle dissuasif. Parce qu'avant de foutre son poing dans la figure de son adversaire, personne ne se pose la question « Attends, avant de te foutre mon poing dans la figure, je vais aller voir dans le code pénal ce que je risque. Oui, ils m'ont prévu ça, donc je ne te fous pas mon poing dans la figure. » C'est un délit de pulsion qui est hors du rationnel. Par contre, pour tous les délits de préméditation, pour tous les délits qui sont calculés et dont on connaît la transgression bien avant qu'elle n'arrive, alors là, effectivement, la sévérité peut avoir un rôle évident de dissuasion et contenir tout un pan de la criminalité. J'en suis intimement convaincu à travers mes 20 ans de police sans pouvoir clairement le démontrer, sauf avec la circulation routière. Et effectivement, quand on a serré la vis, on a induit un changement de comportement. On a augmenté la sévérité, et bien ça a coïncidé avec une diminution d'un grand nombre d'infractions sur la route, jusqu'à modifier notre propre manière de conduire. En tout cas, moi, ça a eu un effet. Et bon, c'est peut-être l'âge aussi, hein, mais ce qui est certain, c'est que le vrai délinquant de la route, celui qui a un moteur à 300 chevaux et puis qui roule à 190 dans les tunnels, sous les tunnels de Neuchâtel, celui-là, au moment où il transgresse, à aucun moment il ne se dit « Mais qu'est-ce qu'ils m'ont prévu dans la loi sur la circulation routière comme sanction ? Oh, les vilains, ils vont me retirer mon permis pendant longtemps. » Lui, il est en communion avec son moteur, donc il est dans une pulsion au même titre que le violeur qui n'avait pas défini auparavant qu'il allait passer à l'acte. Donc il faut bien tenir compte quand même de ces enjeux-là, parce qu'ils existent, et quand je prônais les justes équilibres, je n'exclus pas la médiation. J'en ai encore fait une jeudi passé pour des menaces de mort, pour éviter des plaintes, en allant discuter, puis voir la dangerosité des personnes, et ça a vraisemblablement évité une affaire de justice, ou même deux affaires de justice, et puis c'était heureux, et puis les parties étaient contentes, et puis tout le monde s'est excusé, et puis c'était bien. Alors de ce côté-là, chacun peut jouer ce rôle-là, on peut même l'encourager pour un certain nombre de délits, mais je termine par l'exemple des voleurs à la tire, qui n'ont aucune racine, aucun lien avec le pays, qui sont juste là venus pour voler, ce que les Genevois appellent les zizous. Bon, voilà. Moi, je ne vois pas quel type de médiation on peut faire avec eux. Leur expliquer, ah, tu ne dois pas voler, c'est... mais ils n'ont rien, attends, c'est leur survie, et puis ils sont là pour ça. Dans le cadre d'une survie, la médiation par rapport à la vieille dame qui s'est fait voler ou tirer son sac et puis qui s'est cassé le col du fémur, ça sera difficile d'arriver à quelque chose. Donc là, il faudra véritablement que quelque chose tombe pour éventuellement dissuader celui-là de récidiver, ou alors, si on n'arrive pas à le dissuader parce qu'il s'en contrefiche, au moins que la victime ait l'impression qu'il n'y ait pas une forme d'impunité dans cette société ou une justice à plusieurs vitesses. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même reconsidérer ces enjeux-là.
Bien, merci. On va juste donner la parole au public à un moment, s'il y a des questions, madame.
En fait, moi, je voulais demander à Monsieur André Kuhn, parce que vous avez parlé qu'à un moment donné, vous avez essayé, enfin, je ne sais pas qui, mais de créer un réseau social un peu, enfin, de laisser entrer un réseau social plus grand dans le droit pénal. Enfin, je n'ai pas compris exactement, enfin, je ne sais pas ce que c'était, et puis ce que vous vouliez dire par là, et puis pourquoi ça n'a pas été, enfin, pas pourquoi, mais qu'est-ce qui n'a pas été reçu dans ce que vous disiez.
Ok. En fait, c'est peut-être un petit peu technique, parce que c'est quelque chose qui a été proposé par le Conseil. La médiation pénale a été proposée par le Conseil fédéral dans le projet de procédure pénale. La médiation pénale, c'est l'externalisation vers un tiers neutre, donc qui ne fait pas partie du système judiciaire, de l'affaire pénale dans le but d'une tentative de règlement externe au système pénal. Ce n'est pas la conciliation sous pression des gens qui forme le système pénal comme on l'a fait, effectivement. Mais le but de la conciliation est trop souvent de classer l'affaire, alors que le but de la médiation sera de résoudre le problème. C'est quand même très différent. Et cette médiation pénale qui avait été proposée par le Conseil fédéral dans le projet a été écartée par le Parlement au moment où le Parlement a décidé de ce que serait la loi. Cette loi n'a ensuite pas fait l'objet d'un référendum, donc elle est entrée en vigueur comme le Parlement l'a remodelée, ce qui est tout à fait, c'est le système de construction des lois en Suisse qui est comme ça, c'est un système totalement démocratique, c'est très bien, mais on a donc empêché l'introduction, où on a évité, diront certains, l'introduction de la médiation pénale sous avec des arguments qui sont ceux du coût, hein, c'est trop cher, c'est trop difficile, hein, comment faire quand on a un auteur et 50 victimes, mais c'est aussi très difficile de juger une affaire et d'être juste et équitable. Est-ce qu'un juge qui juge une affaire peut d'emblée considérer qu'il est équitable? Est-ce que l'équité, c'est pas justement de faire participer les gens au système ou à la résolution du conflit? Et puis, peut-être, les praticiens ont tendance à toujours en revenir à ce qui arrive aujourd'hui et à essayer de dire voilà que faire si on faisait un mois sans poursuite des cambrioleurs, si on faisait que faire avec les infractions de la route, etc. Mais si on essaye de s'extirper un tout petit peu du quotidien, on pourrait aussi se demander si on ne pourrait pas prévenir tout ça. Prévenir, par exemple, la circulation routière. En matière de la circulation routière produit plus du 50% des inscriptions au casier judiciaire en Suisse. Hein. Donc, effectivement, c'est un immense problème. C'est un immense problème parce qu'il y a des gens qui roulent ivre au volant, puis il y a des gens qui roulent trop vite. Maintenant, est-ce qu'on doit les laisser rouler ivre au volant et rouler trop vite, puis les prendre en charge par un système pénal qui sanctionne? Ou bien est-ce qu'on pourrait éventuellement remonter un tout petit peu en deçà et puis essayer de se poser la question de savoir comment je pourrais prévenir tout ça? Et aujourd'hui, nous connaissons des moyens techniques de prévention. On peut mettre, et ça existe, en option pour l'instant, dans 15 ans, ce sera probablement obligatoire, un éthylomètre à la ceinture de sécurité. On met la ceinture, on souffle dans l'éthylomètre. Si on ne souffle pas dans l'éthylomètre ou si l'éthylomètre mentionne qu'on est, on a trop bu, la voiture ne s'allume pas. Voilà. Et on ne peut donc pas commettre. Il est impossible à ce moment-là de commettre une infraction d'ivresse au volant. Alors, vous me direz, il y a toujours celui qui prend sa bouteille de vin et qui la boit après avoir mis le moteur en marche. Enfin, on peut toujours fantasmer, mais disons que ce n'est pas la majorité des cas. Pour ce qui est de la vitesse sur les routes, on a tous un GPS dans notre voiture. Le GPS, il sait exactement où on est. Le GPS, il sait exactement à combien on roule, à quelle vitesse on roule. Le GPS peut tout à fait savoir, il suffit de lui dire à combien on a le droit de rouler à l'endroit où on se trouve. Et le GPS pourrait tout à fait biper à chaque fois qu'on dépasse la vitesse, comme la ceinture de sécurité le fait déjà, hein. Et on dépasserait probablement beaucoup moins la vitesse si on avait régulièrement un son dans les oreilles qui bipait. Et si ça bipait plus de 30 secondes, on pourrait même imaginer que le GPS bloque la voiture à la vitesse autorisée et donc l'excès de vitesse devient impossible. Tout ça, c'est de la prévention. Plus de 50% des cas d'inscription au casier judiciaire sont liés à ce genre de cas-là que l'on pourrait prévenir en amont. Et donc, on n'aurait pas du tout besoin d'un système de sanctions pour sanctionner des gens qui auraient commis des infractions qui ne seraient tout simplement plus commettables. Donc, la prévention fait partie de ce système global dans lequel la sanction pénale n'est plus forcément nécessaire. On nous parle des ISOU, mais les ISOU, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. Hein, c'est exactement ce que tu as dit. Mais ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pensé à implanter une entreprise, pas trop loin de leur banlieue, et puis peut-être de leur offrir une porte de sortie socialement acceptable ou une possibilité des perspectives sociales, simplement. Hein. C'est de la prévention du crime, offrir des perspectives sociales à des gens. Alors évidemment, si on n'offre pas de perspectives sociales, on va avoir des réactions, on va avoir une société à deux vitesses, des réactions, et ces réactions passeront parfois par le crime. Alors effectivement, ce sera difficile de faire de la médiation, mais ce n'est pas impossible. C'est aussi difficile de faire de la médiation qu'il est difficile d'être juste et équitable en matière pénale.
Merci pour votre réponse détaillée. Monsieur, vous aviez une question?
Oui, merci. Dans le dans l'ordre d'idées que préconise M. Kuhn, dans les années 80, M. Milton Friedman, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel par la suite, avait préconisé l'abolition, la dépénalisation de la drogue, n'est-ce pas ? Ça dépend aussi des sujets. Alors pour la drogue, ce serait quelque chose de favorable parce que ça éviterait ces petits-fils qui menacent leur grand-mère pour extorquer de l'argent et les arrachages de sacs, dont j'ai connu trois exemples ici dans le canton, un au Triangle des Allées, un même sur un passage à niveau. Ça pourrait être quelque chose de favorable et ce serait vraiment de la prévention aussi. Hein.
Alors il va de soi que la légalisation des stupéfiants, les seuls qui devraient normalement être opposés à la légalisation des stupéfiants, c'est les trafiquants de stupéfiants parce que c'est eux qui en souffriraient le plus. La société s'en porterait probablement mieux si, alors encore une fois, croire que la prévention se fait par les sanctions que l'on inflige, c'est probablement erroné. Hein. Enfin, on voit que les sanctions ne préviennent pas grand-chose. Ça fait des milliers d'années qu'on sanctionne des gens qui tuent, ça fait des milliers d'années que des gens tuent, et aujourd'hui, ils tuent encore. Alors, ça veut dire qu'on a échoué dans l'idée d'abolir le meurtre par la sanction. Hein. On a échoué d'abolir le trafic de stupéfiants par la sanction. Il s'agirait peut-être de gérer le problème autrement. Et d'ailleurs, en parlant encore une fois de circulation routière, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a en parlant d'abolitions qui ont eu lieu, il y a une ville en Hollande qui a, à la suite d'une panne d'électricité, un jour il n'y avait plus de feu rouge et de feu vert au carrefour principal de la ville, et ils se sont rendus compte qu'il y avait moins d'accidents ce jour-là que les autres jours. Alors ça a fait naître quelques idées dans la tête de certains criminologues déformés, on a décidé, cette ville s'appelle Drachten, on a décidé à Drachten d'abolir toute signalisation. Et on se rend compte que cette idée d'espace partagé entre des automobilistes, des piétons, des cyclistes, engendre beaucoup moins d'accidents qu'un espace sur-réglementé où on a des gendarmes couchés, des panneaux à ne plus arriver à les lire tous tellement il y en a. En redonnant finalement aux gens la responsabilité de leurs actes, les automobilistes ont roulé moins vite, on a fait beaucoup plus attention, hein, parce que quand le feu est vert, je passe, il est vert, c'est normal, je peux passer, je n'ai pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite, plus de ça je suis dans mon droit, donc allons-y, eh bien, quand le feu n'existe pas, eh bien, je ne passe pas sans regarder à gauche et à droite, et il y a donc moins d'accidents qui se produisent. Et la ville de Drachten a observé qu'il y avait moins d'accidents en abolissant les réglementations.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir ? Oui, monsieur.
Merci. Je voulais juste ajouter une ou deux choses. En ce qui concerne la médiation pénale, le canton de Genève la connaissait, en tout cas avant l'introduction du code de procédure pénale. Je ne sais pas s'il l'a réintroduite avec les nouvelles règles. Il y en avait moins de 20 par an. C'est un constat qui était fait. Les procureurs étaient régulièrement rendus sensibles à cet outil, mais c'est aussi un outil extrêmement lourd et il faut que les parties y consentent. Et souvent, c'est là le problème. C'est que les parties, dans leurs difficultés relationnelles qui ont mené d'ailleurs à la rupture du filet social dont vous parliez, ne voulaient pas, en tout cas pas dans un premier temps, entamer cette démarche. Et malgré tout, la justice doit poursuivre son travail. En ce qui concerne la médiation qui a été retirée du projet fédéral, le Parlement, et cela figure dans les travaux du Parlement, a permis, et c'est même M. Blocher qui l'a affirmé, a permis, si les cantons le voulaient, l'introduction de la médiation pénale, donc elle n'est pas exclue. D'ailleurs, certains cantons romands l'ont introduite ou l'ont sous la forme de la médiation pénale pour les mineurs dont vous avez parlé, avec Zurich, qui a d'ailleurs un projet relativement audacieux, puisqu'il y a même, bon, c'est la grandeur du canton, mais il y a un office de la médiation pénale qui dépend directement du ministère public supérieur. Vous avez parlé aussi de la question de la prévention. une prévention technique, il y a aussi une prévention sociale. Alors là, on fait presque un peu de politique, mais disons, quand on traite des dossiers au sein du ministère public, on voit qu'il y a un certain nombre, et même un nombre certain, de gens qui sont dans des situations migratoires, patrimoniales, ou simplement de vie, qui sont extrêmement précaires. Et sans doute que l'un et l'autre sont complémentaires, c'est-à-dire ce travail anticriminogène de favoriser peut-être un petit peu plus une certaine classe sociale, mais ça ne dépend pas du ministère public et c'est justement pas aux autorités judiciaires de se mêler de cet aspect. Au fond, ça doit aller dans l'escarcelle du politique et je suis assez sceptique quant au rôle de certains de ces procureurs, et je pense à Andreas Brunner à Zurich, qui s'implique énormément avec le politique dans les aspects préventifs. Par exemple, il y a la question de la traite des femmes. Est-ce que c'est le rôle d'un procureur de s'impliquer là-dedans? Est-ce que ce n'est pas un peu un faux message pour le justiciable? Finalement, il y a un domaine dont on n'a pas parlé, et là je me pose des questions sur l'aspect préventif, c'est la criminalité économique. La criminalité économique, prenons la petite criminalité économique, celle par laquelle l'entreprise va passer par une faillite assez certaine ou du moins en est proche, et qui voit un gestionnaire, un ayant droit ou un comptable détourner de l'argent qui normalement serait destiné aux créanciers ou en tout cas à d'autres ayants droit. On voit nettement que dans ce cadre, il y a des gens qui font un choix, qui font le choix, au fond, de transgresser la règle qu'ils connaissent. Et il y a plein d'entrepreneurs et de petites entreprises en difficulté où il y a un autre choix qui est fait, celui d'assumer les conséquences des choses, jusqu'à, pour certains qui n'ont peut-être pas une forme, une personnalité juridique de l'entreprise, à assumer avec leur propre denier les dettes de leur société. Et là, la réponse pénale et le dialogue qui s'instaure entre la justice pénale et le prévenu est essentiel. Et des fois, la médiation sera impossible parce que souvent, et c'est étonnant dans cette criminalité économique, les lésés eux-mêmes, lésés directs ou indirects, mais en tout cas les lésés ne s'intéressent pas tellement au suivi de la procédure. Donc là, c'est vraiment le procureur, dans son rôle de monopole de la répression pénale, qui doit au fond entamer ce dialogue avec celui qui a fauté. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter.
Oui, monsieur Gagnat, vous vouliez réagir?
Oui, alors j'abonde dans beaucoup de ce qui a été dit, mais il faut revenir sur quelques thèmes qui ont été abordés entre le ping-pong d'André Kuhn. Alors, André Kuhn a vraisemblablement raison, mais il postule par rapport à ce qu'il nous dit que l'homme est bon finalement. Alors moi, je suis plutôt dans la face cachée de la lune, et puis je crois plutôt que l'homme est mauvais, par définition, et que à cause de cela, il ne faut pas croire angéliquement que la raison de l'argent ne l'emportera pas sur la bonté, donc s'enrichir de manière illégitime peut pousser quelqu'un extrêmement loin, etc. etc. Idem pour la technologie, on parle de la technologie à la place de l'humain, on peut remplacer l'humain par des contrôles techniques. Oui, probablement, mais ça n'empêchera pas le type bourré de faire souffler quelqu'un qui n'est pas bourré pour pouvoir conduire, et il le fera, parce que beaucoup sont mauvais, rendus mauvais par l'alcool peut-être, il n'était pas initialement, mais je m'en fiche, le résultat est le même, il va quand même foncer dans une famille avec 2,8 pour 1000. Pour l'immigration, on dit bah, il n'y a qu'à leur offrir du travail. Oui, alors, on sait que les conditions cadres qui expliquent le passage à l'acte sont connues en criminologie. On sait qu'on doit investir sur le travail, la famille, sur le scolaire, sur le socio-professionnel. Et si on investit massivement sur ces données-là, ces variables-là, on aura une diminution drastique de la criminalité. Bon, dont acte. Mais alors ici, on ne va pas régler les problèmes de Lyon, ou bien, il faut m'expliquer, on ne va pas régler tous les problèmes de la Géorgie ou de certains délinquants de passage qui font l'actualité en ce moment même. Donc on est obligé d'avoir un certain nombre de règles qu'on découvre d'ailleurs mal adaptées à ces situations-là parce qu'on les a définies pour notre propre société, pour nos propres habitants, pour notre propre communauté, sans tenir compte de la mobilité, sans tenir compte des nouveaux enjeux finalement des espaces qu'on est en train de construire. Et là, ben voilà, on applique des règles comme ça qui ne correspondent pas à grand chose de manière par rapport aux individus ou par rapport aux caractéristiques des individus. Et là, on est juste en difficulté. Mais encore, faut que le postulat de départ soit bon pour pouvoir imaginer, soit le bon pour pouvoir imaginer un bon système. Or, on est fait d'individus vraisemblablement minoritaires qui ne sont pas bons et pas déterminés à être bons et que nous n'arriverons pas à raisonner par la médiation, même s'il faut encourager la médiation. Je suis un fan de la médiation. Je suis déçu qu'on ne l'ait pas introduite en Suisse, mais comme ça a été relevé, il faut que les deux parties soient d'accord. Ce n'est pas une alternative à la justice, c'est juste un complément qui vise à ne pas tout rendre justice. Voilà. Tout envoyer à la justice. Et si on peut avoir cette alternative-là, pour, si les gens sont d'accord de la jouer et puis de pouvoir en sortir avec les honneurs, finalement, dans les deux parties, c'est une réussite totale. Mais ça échouera, vraisemblablement, et ça intéressera, vraisemblablement, moins de 10% des cas qui seront intéressés, puis plus de 90% qui ne voudront juste pas s'y engouffrer. Alors on peut faire mieux, hein, peut-être les scores augmenteront, mais selon la nature du délit, il ne faut pas se leurrer. Puis revenons aux violences conjugales aussi. Ça sera difficile d'expliquer à madame d'entrer en médiation selon les horreurs qu'elle aura subies pendant des années dans le cadre de son couple. Au moment où elle a décidé d'officialiser finalement sa victimisation, je vous assure qu'elle attend une autre sanction que celle qu'on propose aujourd'hui, parce que souvent des actes qui sont dévastateurs sur un plan, sur un parcours de vie ou sur un plan psychologique, mais aussi physique, sont considérés comme de peu de gravité par la justice. C'est pas une atteinte à l'honneur de la justice que de le dire. Il y a qu'à regarder les quotités de la peine par rapport aux affaires qui y sont dénoncées. Et là, quand l'auteur de ces violences ressort avec 60 jours à 1 franc d'amende avec sursis, donc il aura rien à payer, je vous assure que c'est difficile de faire comprendre à cette dame que oui, mais c'est juste, c'est le système, on l'a voulu comme ça, le Parlement l'a voté comme ça, et les tribunaux ne peuvent pas s'en écarter. Et celle-là, elle la saumâtre, elle doit vivre avec un deuxième poids sur les épaules, et je trouve, là, on n'est pas en adéquation avec l'humain, je veux dire, l'humain doit être rentré non seulement du côté de la victime, alors le juge en fait partie intégrante, mais on doit tenir compte de la victime, de l'auteur et des circonstances pour pouvoir arriver sur un jugement qui est crédible.
J'aimerais juste donner la parole à Monsieur Aubert. Est-ce que vous avez cette même approche, peut-être une vision un peu pessimiste du fait qu'il y aura à peine 10% des gens qui accepteront la médiation, vous qui traitez ce genre d'affaires?
Oui, alors des expériences que nous avons faites en justice des mineurs en particulier, ou que nous sentant pouvoir faire en justice des adultes, les cas où une médiation est utilement envisageable sont relativement restreints, parce que d'abord, assez souvent, lorsque on sent qu'un accord est possible entre deux personnes, enfin qu'il y a une ouverture pour une réparation, il n'y a souvent pas besoin d'un mécanisme aussi compliqué que la médiation, et souvent une conciliation assez vite faite en audience suffit à contenter tout le monde. Donc on va pas simplement pour la beauté du fait et parce que la médiation est à la mode transmettre ça à un autre organisme, ce qui soit dit en passant peut techniquement poser quelques problèmes en droit pénal des mineurs, où lorsqu'une médiation est tentée on peut renoncer à une peine, mais pas forcément lorsqu'une conciliation est réussie alors que l'affaire se poursuivrait d'office. C'est un petit illogisme lié au fait que la conciliation était moins à la mode que la médiation quand le législateur a fait sa loi, mais enfin je le relève au passage. Sinon, effectivement, il y a quand même un grand nombre de situations où ni l'auteur ni la victime ne souhaitent, ne sont susceptibles pour des raisons de langue, de niveau culturel, de souffrance personnelle ou simplement d'appartenance culturelle à entrer dans ce mécanisme-là. Il faut quand même, c'est un mécanisme au long cours, donc il faut être disponible pendant au moins plusieurs semaines pour se revoir selon la gravité de l'atteinte. Et puis je pense quand même, et j'ai pas pu le mesurer, mais qu'il y a dans l'exercice de la puissance publique au travers d'une sanction pénale un caractère rituel qui fait partie de la nature humaine profonde, qui n'est peut-être pas louable. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est bien qu'on se réjouisse d'infliger une souffrance en compensation d'une autre souffrance. C'est en fait raisonnablement mauvais, sans doute, mais l'être humain est aussi fait d'une partie biologique qui n'évolue peut-être pas ou tellement lentement que toute discussion tendant à envisager une abolition totale de la sanction me semble maintenant extrêmement judicieuse pour un café scientifique, mais pas pour une législation.
Merci. Est-ce que quelqu'un dans le public a... Oui, monsieur, là-bas.
Merci. Je me présente. Je m'appelle Oscar. Je viens de l'Université de Barcelone. Je suis criminologue. Et bon, c'est très intéressant d'écouter tous ces avis. Et comme j'ai remarqué que vous êtes en train de parler beaucoup de la nature humaine, si l'humain il est bon, on peut être abolitionniste, s'il est mauvais, il faut sanctionner. Je pense que Steve Pinker, un psychologue évolutionniste très connu, peut dire quelque chose d'important sur ça, parce qu'il dit que l'homme n'est pas bon par nature, et non plus il n'est pas mauvais par nature, puisqu'il est les deux choses à la fois. Notre cerveau a évolué de telle façon qu'on est capable de faire les deux choses parce qu'on en a besoin pour s'en adapter, pour s'adapter dans le moyen. Alors, ce qu'il faut traiter, c'est sûrement pas le cerveau, que tous on a plus ou moins le même, sinon l'ambiance. Qu'une action soit mauvaise ou bonne ne dépend pas de l'action, ça dépend du contexte, ça dépend de comment nous on définit une action. Tuer, ça peut être très mauvais, ça peut être très louable. Il y a beaucoup d'héros qui ils n'ont pas arrêté de tuer en toute sa vie. Et ce sont des héros. Et pourtant, pour le même fait de tuer, on peut dire qu'une personne aussi est un assassin. Alors, dans ce point-là, je pense que cette discussion, elle est un peu déséquilibrée. Je pense que quand on parle de sanctions, plus qu'aller à la part administrative, il faudrait se centrer à la part pénale, parce que ce sont les sanctions les plus graves. C'est la force de l'État. C'est ce que réellement fait mal à la population, ou peut le faire, en tout cas. Alors, quand on parle de ceinture de sécurité, tout ça, c'est très bien, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important. Alors, au début, j'ai écouté aussi que les sanctions pénales sont faites pour que les forts n'écrasent pas les faibles. Et on regarde la réalité, ça c'est la théorie, mais on regarde la réalité, on voit que les pauvres sont ceux-là qui souffrent la loi, pas les riches. Alors, réellement, à qui protège la loi? À quoi elle sert? À protéger un secteur de la population d'un autre qui ne peut pas s'intégrer? Ça, c'est une question. L'autre, c'est qu'est-ce qui arrive avec ceux-là qui ont le pouvoir. C'est-à-dire, si on est en train de parler d'un système pénal qui est inserté dans un modèle capitaliste qui crée des équilibres importants entre la population qui la polarise beaucoup. Et sans sortir de ce système, on veut arranger le système. C'est impossible. C'est impossible puisque, justement, le système Henri Harcourt de l'Université de Chicago, il a écrit un livre qui s'appelle « L'illusion du marché libre » qui vient à relationner que cette illusion du capitalisme libre de celui que Milton Friedman est un des plus grands défenseurs, est le coupable de qu'en États-Unis, il y ait la tasse de prisonniers plus grande du monde, avec Russie, mais bon, ce sont des cas très différents. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le crime d'État? Qu'est-ce qui arrive avec... Bon, il faut penser qu'on, dans le contexte dans celui qu'on est, on est dans un monde qu'il est globalisé, et pourtant, on est en train de parler d'un effet local, d'une sanction locale. Mais pourtant, c'est qui ne peut pas arranger le local puisqu'il ne peut pas arranger la structure. Bon, alors dans ce système, il faut penser aussi qu'on n'est pas seul. On n'est pas rien qu'ici à Suisse, on ne peut pas mettre une barrière entre la population du monde. On est tous connectés. Suisse est aujourd'hui la Suisse qu'elle est, parce que Sud-Amérique, elle est aujourd'hui la Sud-Amérique qu'elle est. Les États-Unis sont les États-Unis maintenant qui sont, parce que Afrique, Sud-Amérique est comme sont. Je veux dire, on ne peut pas mettre des barrières en train de dire je défends ça et je m'en fous du reste. Toutes les actions scientifiques en réalité sont politiques, sont philosophiques, sont idéologiques. Il faut se placer. Il faut se placer. Et alors, je veux faire lancer, une fois pour toutes, la question que je voulais faire, que c'est si on est dans un monde là où il y a 60 000 personnes qui meurent de faim tous les jours, à quoi elle sert la sanction pénale?
Merci pour votre réflexion. Qui veut répondre à cette question?
Monsieur Gagnard. C'est tellement simple, à rien.
Mais Monsieur Gagnard, pour en revenir, vous disiez que les sanctions pénales servaient à protéger les faibles, mais c'est vrai qu'on voit que dans la pratique, c'est plutôt les gens à faible revenu, avec une formation plutôt basse, qui sont au chômage, qui sont sanctionnés. Il n'y a pas une certaine dichotomie?
Alors, pas pour tous les types de délits, bien évidemment. Donc, on ne va pas retrouver ces mêmes profils pour les délits à caractère sexuel, les délits routiers, où les délits économiques sont rarement commis par des gens extrêmement pauvres, vous le savez. Donc non, il faut véritablement... On ne peut pas avoir un profil comme ça, pauvre, dichotomique, pauvre, exposé, et riche, protégé, même si c'est vrai dans le cadre des inégalités. Donc les pauvres, malheureusement, ne volent pas qu'aux riches, ils volent beaucoup aux pauvres, même beaucoup plus aux pauvres. Donc ça, c'est des réalités qui ont déjà été observées dans le milieu urbain, vraisemblablement parce que ce sont des victimes plus accessibles. Et c'est la théorie de l'opportunisme, hein. Donc si c'est plus facile à voler là, je vais plutôt aller voler là, parce que je suis sûr de l'avoir tout de suite, par rapport au système de protection du riche qui se sera payé pour sa villa et qu'il faudra contourner, et ça ne sera pas facile, puis il y a un risque de se faire choper en plus, si jamais il a mis un surdétecteur. Enfin bref, oui, il y a des inégalités, oui, le système n'est pas juste, quel que soit l'angle avec lequel on le regarde. Ce système, il est toujours imparfait, que ce soit vos yeux qui le regardent, les miens ou ceux de madame et autres. Il ne peut pas être parfait, il ne peut pas régler toutes ces situations de manière parfaite. Alors il peut évoluer, c'est ce qu'il est en train de faire. Actuellement, on est en train d'évoluer vers des peines de moins en moins sévères. On était en train d'évoluer vers des peines de moins en moins sévères. Et puis on sent vraisemblablement que les tensions politiques actuelle depuis quelques années, hein, par rapport à la bipolarisation des forces politiques qui sont là derrière, ont été un élément qui a poussé à re-radicaliser ou resserrer la vis en devenant plus sévère. Et puis en donnant la voix au peuple sur des sujets où il est peu capable, je pense à l'internement à vie, hein, par exemple, et puis deux, trois objets qui ont été soumis au peuple où il n'est pas véritablement capable de mesurer les enjeux. Et là, on voit que la sanction évolue, puisque c'est le Parlement qui la fixe, hein, finalement, au gré des tensions politiques qu'on est en train de vivre dans ce pays. Pas véritablement par rapport aux tensions dû à la criminalité, mais on les met en scène, ces tensions qui peuvent avoir un lien ou pas avec la criminalité, on les met en scène sur un plan politique pour faire de l'électorat et puis pour monter quelque chose. Et là, je trouve dommage que le système évolue non pas en phase avec la réalité, mais en phase avec un discours et des idéologies qui s'opposent. Mais ça a peut-être toujours été comme ça, hein. C'est peut-être comme ça qu'on a construit notre démocratie. Donc, il ne faut surtout pas retenir qu'on est dans un modèle parfait de justice, mais vraisemblablement dans celui des moindres dommages ou la meilleure approximation possible et imaginable dans cet État extrêmement démocratique. Alors maintenant, je critiquais tout à l'heure un régime de sanctions. Alors effectivement, parce que sur un plan personnel, je ne m'y retrouve pas. Et puis mes clients ne s'y retrouvent pas non plus. Hein, donc je pense aux victimes, là, en l'occurrence. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole là-dessus. Mais le plus à même, c'est celui qui parle en notre nom en justice, donc le procureur qui nous représente, hein, est mieux à même que moi d'en parler. Moi, je suis qu'un simple flic.
Merci. La question, en fait, n'est pas tellement... on en déborde un petit peu, parce que la question qui se pose aux pénalistes n'est pas de savoir quel devrait être le monde si l'homme était bon, ou quel serait le monde le meilleur possible compte tenu de la nature de l'homme. La question du pénaliste, c'est de savoir, dans le monde dans lequel il est, comment fait-il pour résorber les troubles? Alors, effectivement, il y a moins de vols quand il y a moins de pauvres, parce qu'il y a moins de moteurs à s'approprier le bien d'autrui. Ça, on ne supprime pas pour autant le vol quand tout le monde a une situation équivalente, parce que on peut toujours améliorer sa situation et qu'on trouve toujours quelqu'un qui souhaite le faire de cette manière-là. Donc le problème du pénaliste, c'est pas de dire nous vivons dans un monde mauvais, c'est même pas de faire de la prévention. La prévention, c'est un problème du politique, mais effectivement que plus on fait de prévention, moins on a de crimes. Il faut ensuite en mesurer le prix de la prévention, parce que si effectivement c'est de mettre des objets qui nous surveillent et qui nous dictent tout ce qu'on doit faire, ça a aussi son petit coût social. Mais je m'écarte là de notre sujet. La question du pénaliste, c'est de dire, ben voilà, il y a un trouble social dans une situation donnée, dans une société donnée, que fait-on pour y répondre? Est-ce que l'on essaye simplement d'amender l'auteur de l'infraction pour que il cesse de commettre un trouble social? Ou est-ce que l'on doit, vis-à-vis du corps social en entier, prendre une mesure plus spectaculaire, plus solennelle, qui se sous la forme d'une peine? Alors maintenant, on l'a fait de manière, si j'ose dire, très symbolique. On arrive presque au niveau où on dit, vous avez 10, vous avez fait une faute qui vaut 10, ou vous avez une faute qui vaut 2, parce qu'on met des peines, des peines pécuniaires de montant relativement faible, de quantum relativement faible. Je ne dis pas que ça sert à rien. C'est un acte rituel. On a dit, ben voilà, vous avez commis cette faute et ça vaut 10 points, enfin 10 mauvais points, ou ça vaut 20 mauvais points. Et ce qu'il y a de spectaculaire, c'est que les gens viennent quand même en audience, essayent quand même de se défendre pour n'avoir pas 20 mauvais points, mais 15 mauvais points. Et donc il y a quand même un impact de la simple réprobation sociale affirmée par le juge sur la commission d'un acte. Donc ce simple élément-là est déjà en soi une sanction. Ça s'appelle en quelque sorte le blâme. C'est un blâme modulable, avec la perspective de mettre davantage une autre fois, puisque on met un sursis la première fois, la deuxième fois on dit on prendra une partie de vos biens, c'est une petite somme peut-être, et puis la troisième fois peut-être qu'on vous fera travailler, et peut-être la quatrième fois on vous mettra en prison. Donc maintenant c'est le système qu'on connaît, qui, à vrai dire, fonctionne assez bien. Alors, il est pour beaucoup de petites infractions immédiates très, très inopérant, mais globalement, il ne me semble pas que depuis 2007, on vive dans un monde beaucoup plus insécure que ça n'était le cas avant. Et si c'est le cas, il serait encore difficile de dire que c'est parce que la loi est plus mauvaise qu'avant, ou simplement si c'est parce que la société perd un carcan moral qu'elle avait avant, qui n'était pas forcément non plus la panacée. Mais donc le problème du pénaliste, pour revenir à ce que je disais, ça n'est pas de déterminer quel devrait être le monde s'il était meilleur, c'est de dire que puis-je faire moi en face de ce trouble pour que ceux qui y ont assisté et ceux qui en étaient victimes aient le sentiment que la situation a été plus ou moins réparée. C'est tout ce qu'il peut faire le pénaliste. C'est déjà pas mal d'ailleurs.
Merci. Est-ce que quelqu'un du public veut réagir? Ce n'est pas le cas, Monsieur Kuhn, peut-être.
Alors, volontiers, je vais essayer de rebondir sur différentes choses qui ont été dites, à commencer par la toute dernière, puisque je vois bien que nos positions ne sont pas si différentes que ça entre le procureur et l'abolitionniste. Lorsque le procureur nous dit que, quelle que soit la sanction, le résultat est à peu près le même, donc la sanction n'est qu'un rituel, ou en tout cas dans bon nombre de cas, eh bien, finalement, on pourrait imaginer qu'on puisse aussi fonctionner avec un autre rituel qui ne s'appellerait peut-être plus sanction, mais... réparation ou prise en charge différente. Alors, maintenant, quand on parle de prise en charge, il y a toujours le problème des victimes. Alors, il est peu apparu jusqu'ici, mais il est sous-jacent, il est omniprésent. Les victimes, pour nous non-victimes, enfin pour la majorité des non-victimes, les victimes réclament une justice pénale. Et là, on est dans une croyance qui n'est pas tout à fait exacte. Dans les études de criminologie montrent clairement que les victimes ne sont pas plus punitives que les non-victimes. Ce n'est pas parce qu'on a été victime que l'on veut le retour du bourreau ou bien des peines plus lourdes. La victime, elle veut autre chose. Lorsqu'on essaye de déterminer ce qu'elle veut, on se rend compte que ce qu'elle cherche, c'est une prise en charge d'elle-même et non pas forcément une prise en charge de l'auteur. Et lorsqu'on parlait de réparation, de médiation, enfin, il n'y a pas que la médiation, hein, dans les systèmes amiables de résolution de conflits, on parlait, enfin, j'envisageais non seulement une prise en charge de l'auteur ou une conscientisation de l'auteur, mais aussi une prise en charge de la victime par la reconnaissance de son statut de victime. Aujourd'hui, la reconnaissance du statut de victime passe par la condamnation pénale. Mais c'est ridicule. La victime n'a pas sa place dans le procès pénal. Le procès pénal sert à prendre en charge l'auteur. Historiquement parlant, la victime, elle est arrivée dans ce procès pénal dans les années 70, 90 en Suisse. Mais c'est on lui fait miroiter, on lui fait croire que le procès pénal va l'aider à mieux digérer ce qui lui est arrivé. Et lorsqu'on essaye de faire des études, et les études criminologiques existent en la matière, lorsqu'on essaye de faire des études sur le ressenti post-jugement des victimes, on se rend compte que les victimes le jugement n'a rien changé chez les victimes. Elles ne sont pas satisfaites. Hein, et elles ne le seraient pas plus si les peines étaient plus lourdes. C'est pas ça l'idée. La victime sera satisfaite lorsqu'on aura fait quelque chose de particulier pour elle. En d'autres termes, dans un système idéal, à mon sens, un système différent. Ce système différent devrait envisager un double procès, hein, un procès éventuellement de l'auteur, si on veut rester dans le système pénal, hein, un procès de l'auteur qui prendrait en charge l'auteur, et un procès de la victime qui permettrait à l'État de dire à la victime, oui, nous admettons que vous avez un statut de victime, quelque chose de vilain vous est arrivé, on reconnaît votre statut de victime. La victime aujourd'hui, lorsque l'auteur est acquitté, hein, au bénéfice du doute, ou bien parce qu'il est irresponsable, ou encore parce qu'on n'a pas chopé le bon, enfin peu importe, il est acquitté, la victime, elle se sent complètement lésée dans l'histoire. Elle est victimisée une deuxième fois. Hein. On lui dit non, vous n'avez pas été victime, puisqu'on n'a pas condamné l'auteur. Et ça, c'est inacceptable. Et la prise en charge de la victime devrait, à mon sens, passer par tout à fait autre chose qu'un procès pénal. Hein. Si on veut garder le pénal, gardons le pénal, mais pour les auteurs, mais créons ce procès particulier de reconnaissance du statut de la victime pour les victimes. Et pour éviter d'avoir à créer ce statut, ce procès de reconnaissance du statut de victime, eh bien, on pourrait imaginer un tout autre système, hein, un tout autre système dans lequel les deux choses se passent en même temps dans le cadre d'une réconciliation avec l'aide de la société ou des groupes sociaux respectifs de la victime et de l'auteur. Et là, on est de nouveau dans les modes amiables de résolution de conflits. Je crois qu'il faut comprendre une chose, et je crois qu'on attribue à Einstein généralement cette phrase qui veut qu'on ne résout jamais un problème au même niveau de pensée que celui auquel on a créé. Le droit pénal n'est pas une solution, c'est un problème. On nous dit que ça ne marche pas très bien, mais bon, on doit le faire. On doit le faire. Pourquoi ? Parce que le politique a décidé qu'aujourd'hui, ou bien nous avons décidé, notre société a décidé qu'aujourd'hui c'était comme ça. Mais c'est pas définitif, rien n'est définitif. Il y a quelques centaines d'années, on a décidé qu'on ne pouvait pas condamner un innocent. C'était exclu de condamner un innocent. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a torturé les gens pour qu'ils avouent. Et donc, on n'a pas condamné des innocents. Et les juristes de l'époque, s'ils voyaient notre système, ils nous traiteraient de barbares. Nous prenons le risque de condamner des innocents, alors que nous voyons leur système comme barbare parce qu'ils torturaient des gens. Mais finalement, on voit donc bien que la torture a disparu du système pénal, alors qu'elle était indispensable au bon fonctionnement du système pénal d'antan. On peut tout à fait imaginer que le droit pénal d'aujourd'hui, dans sa conception d'aujourd'hui, disparaisse de la prise en charge de la criminalité, enfin ce qu'on appellera peut-être plus de la criminalité, au profit d'un autre système, mais pour arriver à cet autre système, il va falloir s'extirper un tout petit peu de l'actualité au quotidien et arrêter de se poser la question de savoir par quoi est-ce qu'on pourrait le remplacer lorsqu'on est face à quelqu'un qui a volé volé à l'étalage. Je crois que la question, elle n'est pas là. Hein. La question, elle est bien au-delà, et c'est ce que disait monsieur. Il y a des liens beaucoup plus larges qui sont des choses bien plus diverses qui influencent le système général de notre société. Et notre système général part de l'idée que le droit pénal est indispensable. Il existe d'autres systèmes généraux qui ne nécessiteraient pas forcément ce droit pénal.
Merci. Juste avant, M. Gagnère, je voudrais entendre M. Aubert, sur vous qui vivez les procès, sur l'effet réparateur qu'a un procès sur la victime. Est-ce que vous partagez le même avis que M. Kuhn ?
Oh, il n'y a pas une victime et donc pas un effet du procès sur la victime. Il y a de nombreux effets, de nombreux procès sur de nombreuses victimes. Et l'on peut aller de personnes tout à fait indignées de ce qui s'est passé à des personnes rassérénées. Alors évidemment, la première indignation, c'est quand la thèse de l'auteur l'emporte au bénéfice du doute. Il faut dire que l'auteur d'une infraction commise en particulier a toujours une longueur d'avance sur la victime, c'est que le doute lui profite. Alors c'est souvent très difficile dans les infractions de nature sexuelle de déterminer s'il y avait un consentement ou pas d'abord, s'il y a eu un acte ou pas, si l'acte était consenti ou pas. Donc ça c'est la première source d'insatisfaction des victimes. Celle-là, si j'ose dire, elle est inévitable, sauf progrès scientifique majeur qui permettrait de prélever de nouvelles traces, des traces psychologiques certaines. Enfin, dans l'état de notre modeste humanité, cette insatisfaction est inévitable dans un grand nombre de cas. Et puis quand l'auteur nie, mais que le tribunal retient quand même l'infraction parce que les éléments sont suffisants, c'est un petit peu réparateur pour la victime parce qu'elle a été crue, ce qui est déjà pas mal, mais ça ne l'est qu'imparfaitement parce qu'il n'y a pas eu de, reconnaissance du tort par celui qui l'a commis et ça reste incomplet. Là-dessus, la justice n'a pas de prise non plus. On ne peut pas assommer quelqu'un en disant maintenant tu t'excuses parce que tu reconnais que tu l'as fait. Enfin, ça vient d'être dit. Et puis il y a quand même quelques situations où l'auteur ayant reconnu on arrive à instaurer un commencement de dialogue apaisant pour les parties dans le cadre d'un procès pénal qui se conclut quand même par une peine. Laquelle peine peut tenir compte de cet apaisement qui est survenu entre les parties. Donc je ne serai pas aussi sévère que M. Kuhn en disant que la victime est extérieure au procès, qu'elle n'est pas concernée ou qu'elle n'est pas... qu'elle n'obtient aucune réparation. Il y a par ailleurs d'autres instruments que mis en œuvre par la loi sur l'aide aux victimes d'infractions, mais on entrerait là dans un débat un peu plus long. Il y a des réparations matérielles, il y a des aides psychologiques qui parfois d'ailleurs ne sont pas très loin de faire perdurer le problème plutôt que de le résoudre, parce que c'est aussi difficile d'entrer dans un système où on vous dit: bonjour madame la victime, nous vous plaignons beaucoup et puisque vous êtes une victime, nous allons nous occuper de vous, parce que c'est un système qui est vertical et la victime reste la victime du système parce que elle est demanderesse, elle reçoit des bienfaits. Enfin, c'est une situation qui fait perdurer une certaine humiliation. Donc là, le débat sur l'aide que l'on peut apporter aux gens qui ont souffert d'une infraction est loin d'être clos, mais c'était bien de le commencer, c'était normal qu'il commence de manière aussi imparfaite, mais l'absence de procès, par conséquent l'absence de risque pour l'auteur s'il n'entre pas en relation avec la victime en vue d'une réparation, me semble pas beaucoup plus prometteur que notre situation actuelle.
Merci. Monsieur Gagnat, vous vouliez ?
Oui, je voulais juste rebondir par rapport à, encore une fois, le modèle qui était décrit par André Kuhn. Alors moi, je pense qu'il a 200 ans d'avance, parce qu'il ne peut pas se décliner au présent. vraisemblablement parce qu'il n'est pas en adéquation avec le développement de la croyance populaire, en tous les cas, en tout cas le développement des attentes populaires par rapport à la justice. Et je pense qu'il arrivera un jour, peut-être, où ce modèle existera lorsqu'on saura détecter que l'auteur va passer à l'acte avant qu'il n'y pense. Donc peut-être qu'un jour, on jouera sur, on aura peut-être les moyens de le faire et puis de prévenir véritablement efficacement que le crime ne se produise. Mais en l'état, moi je nourris énormément de doutes par rapport à tout cela. Ce qui est certain, c'est que un certain nombre de valeurs ont changé dans la société. On a parcouru, ça a été dit, énormément de chemin en 200 ans, depuis la torture jusqu'au système qu'on propose aujourd'hui, qui me paraît bien équilibré. Alors, on peut évoluer, on va encore évoluer, ça c'est sûr. Dans quelle direction, je ne suis pas sûr que ce soit dans celle du modèle qui est décrit en dehors de la sanction. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de revenir dans des discussions, hein, je l'entends, dans les affaires ou contact des victimes, on en parlait avec Mme Lydia Gabor, elle me disait qu'il faudrait peut-être réinstaurer le sentiment de honte et de culpabilité avec la justice, ça plairait peut-être au procureur, mais au bâton sur la place publique. Mais là, elle a pas tout tort, peut-être. On mesure en psychopathologie que des auteurs suractifs, jeunes en particulier, puisque c'est eux qui étaient le sujet de l'étude auquel je me réfère, ont un sentiment de culpabilité qui est absent, une valeur absente de leur existence. Le sentiment de réflexivité, se regarder dans le miroir pour pouvoir se juger, est complètement absent. Le tout de suite, alors, est bel et bien surdéveloppé. Impossibilité d'être projectif pour obtenir quelque chose, il faut que je me l'approprie maintenant, sinon ça devient même existentiel. Enfin, des valeurs qui s'éloignent de plus en plus du modèle éducatif judéo-chrétien, Dieu sait si je le prône pas celui-là, mais qui était le fondement même du sentiment de culpabilité qui est en train gentiment de disparaître. Alors quelle alternative proposer à cela dans cette situation-là? Effectivement, le droit pénal actuel exercé sur moi, si je transgresse, va produire un sentiment de honte extrême. Et à ma famille, pareil, et puis même à mon chien, s'il le faut. Par contre, si je ne réponds pas à ces conditions cadres, évidemment, même si la peine est extrêmement faible, hein, si je jouis d'un sursis, j'ai même pas une amende à payer, enfin des trucs comme ça, le fait d'avoir que l'on sache que j'ai transgressé parce que la justice est publique va avoir beaucoup plus d'effet que si je suis dénué de statut, de tout sentiment de culpabilité. Et là, je risque de ressortir de cette justice-là pratiquement indemne et de recommencer, et de recommencer, et de recommencer. Je termine par un paradoxe, parce qu'il faut quand même dire que j'ai critiqué les jours amende, mais une étude de l'Office fédéral de la statistique vient de sortir la semaine prochaine. La semaine passée, pardon. Je l'ai là. Elle montre qu'il n'y a aucune incidence sur la récidive. Et pourtant, quand on a introduit les jours amendes, tout le monde a dit, sauf ceux qui ont installé ce système, on est foutu, il y aura une récidive terrible, etc. L'augmentation de la criminalité, c'est tout le contraire qui se produit. En fait, on le savait, elles avaient déjà été introduites en Suède. On avait déjà remarqué qu'en Suède, la récidive n'avait pas varié, la criminalité n'avait pas augmenté. Et pourtant, ce système reste, sur un plan psychologique, pas théorique, Il reste insupportable parce qu'il n'est pas totalement en adéquation avec un certain nombre d'échelles de valeurs qui sont encore persistantes. Et puis un élan comme ça, on a encore des restes de holisme. Et dans le holisme, on y met encore la victime, la famille de la victime. Et puis on y met un peu de la société. Voilà.
Merci. Madame, vous avez une réaction ?
Monsieur Kuhn, en fait, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites, dans le sens que je pense que ça permettrait, c'est juste une réflexion personnelle, mais ça permettrait peut-être d'améliorer un petit peu, mais ça serait encore pas satisfaisant à mon avis, parce que les personnes qui sont victimes n'ont pas forcément envie que ça soit officiel, qu'elles le soient, victimes déjà. Ça dépend de ce qu'elles ont subi. Peut-être que ça aiderait encore un petit peu plus, mais Je trouve témoigner d'autant de ferveur pour quelque chose qui peut juste un tout petit peu améliorer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin, moi, je pense, franchement, je pense qu'il faut aussi être réaliste puis se dire, bon, ben, si il y a un bon suivi psychologique derrière ou que la personne, elle trouve d'autres solutions qui lui conviennent, est-ce que c'est pas mieux que de chercher à, comme certains ordinateurs veulent penser à notre place, hein, de chercher à penser à la place de la victime, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux? Et de trouver un système, encore un autre système, pour que ça fonctionne mieux. Voilà.
Monsieur Kuhn, c'est un système trop compliqué?
Alors, ça peut paraître trop compliqué, mais l'idée qu'il faille faire quelque chose pour les victimes qui corresponde à ce que les victimes aimeraient, c'est ce qu'on a cru faire en introduisant la loi sur l'aide aux victimes d'infraction. Et aujourd'hui, avec les 20 ans de recul que nous avons, on observe dans les recherches qui ont été faites sur le sujet qu'effectivement, comme le disait M. Aubert tout à l'heure, certaines victimes se sont confortées dans leur statut de victime plus longtemps en raison de ce système que elles ne l'auraient été si elles n'avaient pas été, si elles n'avaient pas passé par cette aide aux victimes. Hein. Donc on voit bien que elle peut avoir un certain nombre d'effets pervers et les victimes n'en sont pas forcément ravies de cette aide-là, hein, parce que elles sentent bien que ce qu'elles aimeraient, c'est être, enfin, d'après les études actuelles, hein, c'est d'être reconnus comme victimes. Hein, et le droit pénal ne permet pas de les reconnaître comme victimes, sauf évidemment à condamner l'individu. Mais le droit pénal ne condamne pas... bon nombre d'infractions ne sont finalement pas condamnées. Et donc, bon nombre de victimes se retrouvent à se dire « Bon, ben voilà, quoi, je ne suis pas contente, parce que le droit pénal ne fait rien, la police ne fait rien, le procureur ne fait rien. Hein, » enfin, voilà. Donc, l'idée d'introduire ce système différent ne vient pas d'un esprit qui a réfléchi seulement, mais ça vient aussi de recherches qui ont montré que la victime d'aujourd'hui n'est pas forcément satisfaite du système d'aujourd'hui, et désirerait autre chose. C'est vers cette autre chose qu'on essaye de tendre quand on dit que peut-être il faudrait trouver le moyen de lui accorder un statut, hein, de victime. Donc voilà un petit peu l'idée. D'abord, j'étais très intéressé par ce qui a été dit avant sur la honte, parce que effectivement, la honte dont nous a parlé M. Guénat m'a plutôt fait penser à de la stigmatisation. Hein. On le met sur la place publique, au pilori. Hein. C'est très stigmatisant. C'est la honte stigmatisante. Et dans les modes amiables de résolution de conflits, enfin parmi les gens qui réfléchissent à ces modes amiables de résolution de conflits pénaux, il y en a qui nous disent que la honte, elle n'est pas forcément toujours stigmatisante. On peut créer une honte réintégrative. Hein. La honte réintégrative, c'est quoi? C'est créer un système de honte auprès de l'individu. Donc, il n'est pas très fier d'avoir fait ce qu'il a fait. Hein, mais en même temps, on ne va pas le mettre sur la place publique en disant, avec une pancarte, j'ai commis telle infraction. On va lui dire, mais au fond, vu que tu as compris que ce n'est pas très bien, tu n'es déjà pas mauvais du tout. Hein, tu es un être pas mauvais du tout. Et donc, on va lui permettre d'être honteux tout en étant réintégrer dans le système. Et autant vous dire qu'une personne qui a compris que ce qu'elle a fait n'est pas bien, qu'elle a vraiment compris, pas parce qu'elle a pris une sanction, mais parce qu'elle a fondamentalement compris qu'effectivement, il y a une victime qui a souffert et j'aurais pas aimé être à la place de la victime. Et puis finalement, le principe, tu ne feras pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ce genre de choses-là. Eh bien, si on arrive à faire comprendre ce genre de choses-là à un individu, par la relation qu'on va créer entre lui et la victime, entre son groupe social et le groupe social de la victime, eh bien, quand on arrivera à ça, on arrivera à une société probablement meilleure, avec des gens qui, effectivement, commettront moins d'infractions parce qu'ils ont saisi quelque chose. Et ce n'est pas par la sanction que l'on saisit quelque chose.
Oui, alors, mais Monsieur Guénat, pour la honte réintégrative.
Ouais, alors moi, j'ai pas fait la promotion de la place publique. J'ai donné un exemple de ce que la pensée populaire pouvait réclamer. Ceci dit, par rapport au sentiment de honte, si l'individu n'a pas de récepteur à la honte, ce sera difficile de lui ancrer ce principe, même dans le procès pénal. Et c'est là qu'on a une mutation, parce que c'est Jean-Paul Gaillard, hein, qui est psychopathologue à l'Université de Savoie, qui les appelle les mutants par rapport à cette évolution dans la société, où un certain nombre de valeurs qui étaient ancrées dans les individus, et la plupart des individus, mais certainement pas tous, eh ben, actuellement, ben, on n'arrive plus à mesurer ces valeurs-là parce qu'elles ont disparu. Elles ont disparu vraisemblablement grâce au téléphone portable, au modèle éducatif d'aujourd'hui, mais lentement, hein, vraisemblablement, ce n'est pas du jour au lendemain. Et là, on est juste en difficulté. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport aux auteurs de délits, la plupart, c'est des gens bon, enfin, je veux dire gentil, ils ne sont pas tous méchants, enfin, ils ont des valeurs en eux, ils les portent en eux. On sympathise même hein, dans nos rencontres policières, on se revoit de temps en temps après, on n'est pas des mondes qui ne peuvent pas converger. Mais quand même, le système, il faut quand même le réserver aussi à ceux qui sont pas bons du tout, avec lesquels on n'arrive pas à avoir un lien, un contact, raisonner, induire un sentiment de culpabilité, de honte. Quel système on leur réserve à ceux-là? On ne le réserve pas. Alors voilà, il faut garder quand même une échelle, puis on ne va pas commencer de les trier avec un test psychologique pour savoir s'ils vont dans le tribunal de ceux qui ont le sentiment de culpabilité avec une peine amoindrie, ou s'ils vont devant le tribunal de ceux qui sont imperméables à ces valeurs avec des peines beaucoup plus fortes. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a un système imparfait global qui essaye de tenir compte de ces équilibres autant bien, enfin, voilà, avec beaucoup d'efforts et puis de persistance. Maintenant, changer du jour au lendemain, ça me semble quelque chose encore que j'inscris dans l'utopie pour l'instant par rapport à cette diversité-là.
Merci pour ces précisions. Monsieur Aubert et après Monsieur Lama.
Oui, sur le sentiment de honte. Vous aurez sans doute tous fait l'expérience sur vous-même. On commet des petites lâchetés, des petites fautes, des petits mensonges tout au long de sa vie. Et puis la plupart passent comme ça, on est très content. Et puis de temps en temps, crac, on se fait épingler. On dit, j'étais en retard parce que ceci. Puis on dit, mais non, c'est pas vrai, je t'ai vu là. Et puis, c'est à ce moment-là que la honte naît. Tout à fait naturellement chez presque tout le monde, sauf quelques individus, semble-t-il, qui ont une évolution différente de nous. Mais il faut avoir ce petit moment où on se fait épingler pour que ce sentiment naisse. Et donc, en matière de commission d'infraction, la plupart du temps, peut épingler efficacement la personne qui a commis une faute, l'autorité qui est outillée pour cela, c'est-à-dire la police, parce qu'elle a des moyens d'investigation que n'ont pas les particuliers. Donc elle dit, voilà, ben voilà, monsieur, on sait que vous avez volé parce qu'on a trouvé vos empreintes, on a trouvé vos traces génétiques, donc c'est vous. Et puis la plupart du temps, les gens sont un peu confus d'avoir été pris, alors plus ou moins, c'est entendu. Mais pour que ce mécanisme se fasse, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin, parce que dire simplement, comme quand on joue à cache-cache, 1, 2, 3 pour un tel, ça n'a pas beaucoup de charme. Donc la sanction, si je veux dire, la sanction qui termine ce processus-là, le justifie en quelque sorte dans notre nature humaine d'aujourd'hui. Alors peut-être que nous évoluerons vers un avenir plus doux comme l'espère M. Kuhn, je ne sais pas. Il se fait attendre cet avenir, si j'ose dire, depuis que l'homme a une conscience d'être un être humain. Mais en tout cas, je pose maintenant comme principe que la sanction est l'aboutissement normal et regrettable, je l'admets, d'un phénomène qui est nécessaire à identifier la faute et par conséquent à ce qu'elle soit reconnue et par la victime et par l'auteur, et pour que l'auteur, se sachant reconnu comme auteur d'infraction, puisse faire ce cheminement intérieur en disant « Ouais, ben, il faudra que je fasse la prochaine fois un peu mieux ». Ensuite, la quotité de la peine, c'est une autre discussion. Mais le pouvoir d'un organisme étatique de dire « ça, c'est une faute et ça vaut tant », c'est un pouvoir auquel je pense on ne renoncera pas de longtemps.
Merci. Monsieur, vous vouliez réagir?
Oui, juste pour la question de l'abolitionnisme, au fond, on pourrait aussi procéder par le même raisonnement pour tout l'aspect civil de la justice. Parce qu'au fond, quand on a un conflit civil, on ne respecte pas un contrat, par exemple, eh bien, l'État a aussi un certain monopole dans l'exécution des jugements civils. Il y a aussi la loi sur les poursuites et faillites qui voit débarquer l'huissier, le gendarme, et puis qui vous saisissent vos biens en vue de la réalisation de ceux-ci. Donc je pense que c'est peut-être une boutade, mais on devrait penser à un système global et aussi au niveau administratif. Pourquoi pas, à ce moment-là, on a un État, on ne dira pas laxiste, mais disons relativement compréhensif. Sur la question de la récidive, je crois que le point important, c'est qu'on explique la sanction au justiciable. Et quand je dis justiciable, c'est l'auteur comme la victime. J'ai appris récemment que dans sa prochaine réforme de la justice française, on allait enfin contraindre les tribunaux d'assises de motiver leur jugement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc actuellement, les jugements d'assises ne sont pas motivés. On le comprend, c'est toute la problématique aussi du jury qui est pur et absolu et qui rend des décisions sans forcément avoir toutes les circonvolutions toxiques et bizarres des juristes. Mais disons, c'est quand même important que chacun comprenne la sanction. Le problème, c'est que nos jugements rédigés toujours par des juristes, eh bien, il n'y a qu'une catégorie de la population qui les comprend, et d'autres pas. Et là, je pense qu'il faut, et c'est aussi un besoin politique, il faut axer et développer les services de probation, les services d'exécution des peines ou d'application des peines. Parce que eux, par le biais de travailleurs sociaux, mais qui sont mandatés par la justice, vont contribuer aussi à expliquer et à suivre le processus auprès du condamné. Et on pourrait aussi un peu plus développer ça au niveau de la LAVI, que les centres LAVI, donc pour les victimes, ne s'occupent pas seulement de la victime ante jugement, mais aussi après, pour sous forme d'un ombudsman peut-être en la matière, expliquer un petit peu la position de l'État et pourquoi telle décision a été rendue. Je pense que ainsi, tant pour la victime, mais surtout pour le prévenu, on éviterait peut-être encore un peu plus de récidive. Le travail qui est fait actuellement par les services de probation est admirable, et puis c'est ça qui permet de lutter contre les risques de réitération.
Merci. Monsieur, au fond, mais...
ce serait bien en fait, c'est enregistré. Si vous pouviez juste prendre le micro, s'il vous plaît, merci.
Merci. Je vois que l'heure passe et je voulais signaler quelque chose. Donc la question de la peine, la question de la sanction, évidemment, a été traitée, comme vous le savez tous, par les philosophes, en règle générale. Et j'aimerais juste vous indiquer quelque chose, c'est que la revue romande de philosophie, qui est la revue de théologie et de philosophie, dans un numéro tout récent, consacre une série d'études à la question « Y a-t-il une peine juste ?» Et j'ai le plaisir donc de présenter ce numéro rapidement, puisque M. Kuhn, qui est ici présent, donc, nous a fait un article intitulé précisément « Peut-on se passer de la peine pénale, un abolitionnisme à la hauteur des défis contemporains ?» Alors, comme les choses sont bien faites, il se trouve que j'ai pris avec moi une série de numéros de cette revue et que ceux qui seraient intéressés donc, peuvent venir vers moi à la fin de la séance. Excusez-moi de cette parenthèse publicitaire.
Merci, monsieur. Ça permet aux gens qui sont intéressés de travailler sur ce sujet de lire. Il y a aussi des livres de monsieur Kuhn. Je ne sais pas si vous avez aussi des livres à proposer. Tant qu'à faire. Mais nous arrivons à la fin de ce débat. Merci aux intervenants, ici à vous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous au prochain Café Scientifique qui est le mercredi 18 janvier 2012. L'éducation source de nos violences, ce qui est en lien avec le Café Scientifique qu'on a eu ce soir. Et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci.